en cosmétique, on parle beaucoup des actifs. Et on a tendance à centrer notre discours beaucoup sur les actifs. Mais le produit actif, la plante qui vient de je ne sais pas où, souvent c'est 1%, 3% de votre formule. Et tout le reste de ce que vous trouvez autour peut avoir un impact sur le microbiome.
Bonjour, bienvenue sur Beauty Toaster. Aujourd'hui, je reçois Marie Drago, qui a créé Galiné, la marque de soins qui s'occupe de votre microbiome cutané. De votre micro quoi ? De votre microbiome. De toutes ces petites bactéries qui vivent leur vie à la surface de votre peau pour lui permettre de mieux résister aux agressions extérieures. Et Marie sait de quoi elle parle, puisque c'est un problème de peau qui l'a amenée à s'intéresser à ce monde de l'infiniment petit. Après l'avoir écouté, vous ne regarderez plus votre épiderme de la même manière. Mieux, vous y ferez beaucoup plus attention. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure du Beauty Toaster. Bonjour Marie.
Bonjour Chantal.
Alors Marie, je constate que de plus en plus de nouvelles marques s'adressent aux peaux sensibles. J'ai l'impression qu'on parle de moins en moins de peau sèche, de peau grasse, de peau mixte, au profit de la peau sensible. Mais sensible à quoi au juste et comment ça se manifeste ?
Alors c'est une super question. C'est vrai que maintenant je crois que 70% des femmes s'identifient comme ayant la peau sensible. Et c'est vrai que c'est souvent comment on la ressent soi-même. Donc c'est une peau qui va être irritée, sèche, déshydratée, qui va être sensible aux rougeurs, qui va gratter. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais je pense qu'aussi l'incidence de la peau sensible augmente de plus en plus. Et moi je pense qu'il y a beaucoup de... d'influence du milieu externe, en fait, donc de tout ce qui est pollution, et aussi de notre mode de vie qui est beaucoup plus agressif. On a tendance à se décaper la peau beaucoup, on prend beaucoup de soins ou de médicaments qui ont tendance aussi à peut-être fragiliser la peau. Donc c'est vrai que beaucoup de gens ont la peau sensible, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir la peau grasse en même temps, ou la peau sèche, ou la peau mature.
D'accord.
Donc c'est vrai que, par exemple, nous, notre dernier produit, on l'a testé sur les peaux sensibles et sur les peaux grasses, et que ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui aient la peau sensible et grasse en même temps.
D'accord. Et alors, comment est venue l'idée de créer Galiné, c'est pour peau sensible, hein, sachant qu'il y a quand même des tonnes de lignes qui s'adressent aux peaux sensibles. Donc, c'est quoi ta valeur ajoutée, la valeur ajoutée de Galiné ?
Alors, Galiné, on est la première marque de soins qui s'occupe du microbiome de la peau. Donc, non seulement on prend en compte la peau, mais aussi les bactéries qui vivent dessus. Et j'ai eu la chance, en fait, j'ai toujours voulu créer ma boîte depuis que j'étais toute petite.
C'est vrai.
J'ai travaillé dans la beauté pendant 15 ans et j'ai toujours eu l'idée de créer ma propre gamme. J'ai eu la chance, j'ai travaillé pour des entrepreneuses qui étaient super intéressantes. Joyce qui a créé Veltz en France.
Oui.
J'ai travaillé pour Marcia Kilgore qui a créé Bliss et Soap & Glory. Donc j'avais toujours eu ces femmes qui étaient super entrepreneuses, super inspirantes. Je me suis toujours dit, un jour je ferai la même chose. Et en fait, je suis pharmacien d'origine, mais je n'ai jamais travaillé vraiment dans la pharmacie.
Ouais.
J'ai toujours travaillé en soins,
d'accord,
dans le skincare. Et en plus d'être pharmacien, j'ai une maladie auto-immune rare qui s'appelle du pyoderma. C'est absolument dégueulasse. C'est des ulcères spontanées des jambes. C'est immonde, mais c'est très lié au désordre des bactéries. Donc en fait, moi, ça a commencé après 6 mois d'antibiothérapie pour quelque chose d'autre. Et ça m'a dégommé le système immunitaire. Et du coup, j'ai commencé à avoir ces genres de réactions... bizarre, et je me suis intéressée au microbiome avant que ça devienne cool, en fait. Et j'étais sous immunosuppresseur à l'époque, et je me suis vachement intéressée au régime pro et prébiotique, et comment nourrir ces bactéries peut peut-être aider les réactions inflammatoires de l'organisme. Et pour moi, ça a super bien marché. Donc du coup, maintenant, j'ai plus de traitement, tout se passe bien, j'ai un régime un peu spécifique, je prends beaucoup de nourriture fermentée, je prends beaucoup de fibres, des choses
d'accord,
comme ça,
ouais.
Mais plus de traitement. Et en fait, je me suis dit, c'est super intéressant, on s'occupe des bactéries à l'intérieur et ça fait tellement de bien. Et moi qui travaille dans la beauté, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien pour les bactéries sur la peau finalement ? Et j'ai cherché quand même de la littérature scientifique et j'ai appelé ma faculté de pharmacie à Paris. Je leur ai dit, je ne trouve pas tellement de littérature scientifique sur le microbiome de la peau et sur les soins probiotiques pour la peau. Et ils m'ont fait, en fait, non, la science est très nouvelle, c'est vraiment tout début. Par contre, vous n'aviez jamais passé votre thèse et c'est un très bon sujet de thèse. Donc, je suis retournée à la fac.
Ah ouais, après combien de temps ?
15 ans
temps
après la fin de mes études.
Même.
Alors, depuis, c'est plus possible. Ils ont supprimé la possibilité de faire ça. Je crois qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et du coup, j'ai passé ma thèse sur le microbiome de la peau et j'ai breveté ma thèse. Et donc, la base des formules Galiné, c'est passé sur ma thèse de pharmacie. Donc ça s'est bien goupillé, j'ai envie de dire.
Mal.
Mais oui, c'est pour ça qu'en fait j'ai voulu créer Galinée, c'est vraiment parce que la plupart des soins pour les peaux sensibles voient plus les symptômes que la cause. Alors que, en fait, la recherche montre que souvent la peau sensibilisée, c'est une peau dont la couche bactérienne a été fragilisée, et donc du coup le manteau acide ne se crée plus bien, les bactéries peuvent plus protéger la peau comme elle avait l'habitude, et donc en reconstituant les bactéries, on aide à essayer de regarder la cause plus que les conséquences.
D'accord, ok.
C'est super intéressant. Donc c'est encore, la science est très très nouvelle,
ouais.
Et tout est très centré pour l'instant sur le microbiome de l'intestin.
Ouais.
Parce que c'est super intéressant ce qui se passe et on se rend compte qu'il y a plein de maladies modernes comme la maladie de Crohn, l'obésité, la dépression, l'autisme, qui ne seraient pas forcément la conséquence directe d'un désordre des bactéries, mais au moins très liées à un désordre des bactéries. Et ce qui fait que du coup, y a vachement de recherches en ce moment là-dessus. Et sur la peau, ça arrive un peu plus. Mais oui, on voit bien maintenant que les deux gros trucs dont on parle en pharma, pour tout ce qui est désordre du microbiome, c'est l'acné. Puisque, en fait, quand le microbiome est endommagé, ça laisse la place libre à une bactérie qui s'appelle le C. acnes, qui, de temps en temps, peut provoquer l'acné. Et pour l'eczéma, où c'est lié à une surcroissance du staphylocoque doré. Et donc ça, c'est très bien lié maintenant, et la science est vraiment bonne là-dessus. Et comme quoi, en fait, un microbiome fragilisé peut provoquer l'eczéma. Donc typiquement, quand on endommage son microbiome en se lavant trop, ou de façon trop agressive, ou avec de l'antibiothérapie quand on est petit, ça peut provoquer de l'eczéma à long terme.
D'accord.
Et c'est super intéressant.
Ouais, carrément, carrément. Et en plus, comme c'est au début, effectivement, il y a encore pas mal de choses à découvrir.
Il y a encore tout à découvrir, ouais. Et la complexité et l'intérêt des choses. Enfin, je vais beaucoup à des congrès scientifiques sur le microbiome. Et il y a plein de start-up qui se créent ou de scientifiques qui découvrent. C'est vraiment un nouveau monde, en fait, qui s'est ouvert sur nous, enfin, sous nos yeux, vraiment.
Ouais.
Parce que c'est quelque chose qui vit avec nous depuis qu'on est né.
C'est ça. Et sur ton site de Galinée, il y a un abécédaire de tous les ingrédients que l'on retrouve dans tes différents produits. Donc, tu es hyper transparente. Du coup, on trouve des tensioactifs, des microplastiques, quelques conservateurs autorisés en bio, des solvants, des PEG, des filtres. Bon, bref. La plupart sont autorisés en bio, comme je l'ai dit, mais quand même, est-ce que c'est vraiment inévitable de formuler avec ce genre de produit, justement, quand on s'attaque, entre guillemets, au microbiome ?
Alors, non, c'est une super remarque. C'est vrai qu'on a été le plus transparent possible, parce que je trouve ça plus facile, en fait. Clairement, on n'a rien à cacher, donc autant tout montrer. Par contre, c'est vrai que les formules Galinée, j'ai toujours eu envie de faire les formules les plus sûres possibles. Je suis pharmacien à la base, donc c'est vrai que c'est sûreté et efficacité d'abord, et ensuite, si c'était possible, naturalité. Donc pour moi, ça se fait vraiment dans cet ordre-là. Et en plus, on fait des formules qui n'ont jamais été faites avant en cosmétique, qui sont des formules pour développer les bactéries de la peau, ce qui n'a jamais été fait, puisque pour l'instant, tout ce qu'on a essayé de faire en cosmétique, c'est le maximum de tuer les bactéries pour au moins que le produit reste 36 mois sur l'étagère tranquille.
Ouais.
Donc du coup, c'est vrai que ça fait des formules très spéciales à formuler. Et typiquement, on formule à pH 5, donc le pH de la peau, et ça donne des textures très bizarres. Donc on a besoin d'épaississants, on a besoin de choses comme ça, pour que ça reste quand même une marque de beauté et que ça soit agréable à utiliser, parce qu'on peut faire des trucs super efficaces. Mais si c'est pas sympa tous les jours à se le mettre, c'est pas la peine. Donc c'est vrai que ça donne des formules où de temps en temps, on doit mettre des composés qui sont pas forcément naturels, où on prend du synthétique. Après, le plus je formule les produits maintenant, le plus je vais vers des formulations, ce qu'on appelle minimalistes, avec le moins d'ingrédients possible.
Ouais,
et
c'est vrai.
Du coup, ça fait... on met de moins en moins de parfums, par exemple. Alors, on n'a jamais beaucoup parfumé les bases. On a toujours été en dessous de 0,5% de parfum, ce qui est assez bas, mais c'est juste pour que ça sente un peu bon quand on se l'applique. Mais c'est vrai que de plus en plus, j'ai tendance à dire, typiquement tout ce qui reste sur la figure, dans nos produits, on ne va pas parfumer. Je pense que ce n'est pas intéressant de mettre du parfum sur la figure. Donc, notre dernier nez, le vinaigre, oui, il sent le vinaigre, quoi. Mais je ne trouve pas ça...
C'est
de la transparence aussi, finalement.
C'est de la transparence, bien sûr, ouais, tout à fait.
Mais c'est vrai que, oui, plus on avance, plus on enlève des choses et qu'on met vraiment que ce qui a besoin d'être là. Et je pense qu'aussi, la démarche de Galinée, c'est de dire, oui, c'est pas complètement... Tous les produits ne sont pas d'origine naturelle, on a du synthétique. Mais finalement, le processus de pensée, c'est le plus naturel que vous puissiez trouver, puisqu'on essaye de soutenir un écosystème et de voir la peau que comme une chose de vivant. Et de soutenir cet écosystème vivant en lui apportant ce dont il a besoin. Donc c'est vrai qu'en pharma, on nous apprend que tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Hein. Et, les pharmaciens peuvent faire des trucs très méchants avec des produits naturels. J'ai lu récemment que Socrate était mort d'avoir bu une tisane bio de ciguë.
Mais non. Et la ciguë en même temps.
Voilà, bah ouais, mais c'est naturel. Donc non, c'est une bonne réflexion en ce moment, mais c'est vrai que bah on est 95% naturel d'habitude et on essaye de pousser la naturalité au maximum, mais c'est pas toujours possible.
Ouais, voilà. Donc, tu penses qu'à terme, vous pourrez éliminer certains ingrédients ou...
Alors, ça dépend des... Par exemple, on utilise des conservateurs, mais on en utilise le moins possible. Et on utilise des petits trucs aussi, parce que bah, comme on utilise l'acide lactique, un conservateur naturel, on utilise dans le packaging, on a des petits trucs où on ne met jamais les doigts dans le produit pour ne pas contaminer, donc pour ne pas qu'on ait à
augmenter. Ouais, donc, on n'a pas de peau, de choses comme ça.
Exactement. Ouais. On a une durée de vie sur les étagères qui est entre 24 et 30 mois, donc un peu plus bas que la moyenne. Et aussi, je suis super intéressée, par exemple, par les formes solides, hein, parce qu'en fait, on doit mettre des conservateurs quand il y a de l'eau. Et donc, s'il n'y a pas d'eau, on n'a pas besoin de mettre des conservateurs.
Exactement.
Donc, typiquement, notre pain lavant est une forme solide sans conservateur, ce qui rend les choses un peu plus intéressantes.
C'est sympa, ouais, bien sûr.
Il y a plein de trucs à faire. En fait, en cosméto, en ce moment, ça bouge beaucoup, ça bouge en formulation. Beaucoup. Et je trouve que ça donne des super aventures, en fait.
Ouais, clairement. Et toi qui formule, quel est, selon toi, le produit qui est vraiment à bannir en cosmétique, dans une routine quotidienne?
Je fais beaucoup de présentations et de conférences sur comment formuler des produits pour respecter le microbiome. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en cosmétique, on parle beaucoup des actifs. Et on a tendance à centrer notre discours beaucoup sur les actifs. Mais le produit actif, la plante qui vient de je ne sais pas où, souvent c'est 1%, 3% de votre formule, et tout le reste de ce que vous trouvez autour peut avoir un impact sur le microbiome. Donc typiquement le parfum, les conservateurs, les émulsifiants, les filtres solaires, les choses comme ça. Donc du coup, tous ces ingrédients séparément sont en train d'être testés par l'industrie cosmétique pour trouver leur impact sur les bactéries. Mais en attendant, c'est vrai que bah, nous, les trucs qu'on ne mettra jamais dans les formules, c'est tout ce qui est alcool, parce que l'alcool est un désinfectant, donc de toute façon, ça tue toutes les bactéries. Tout ce qui est SLS, pareil, qui est très agressif pour la peau et pour le microbiome.
Tu peux nous dire ce que c'est, les SLS?
Oh, pardon. Sodium lauryl sulfate,
voilà.
Qui est l'ingrédient qu'on trouve beaucoup dans les gels douches.
Exact.
Qui mousse bien, et du coup, ça fait la mousse et c'est cool, sauf que ça décape. Et aussi, bah, tout ce qui est... Alors moi, je suis très, très accro à avoir des produits qui sont au bon pH. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'aimerais bien que plus de fabricants affichent le pH de leurs produits sur la peau.
Pour toi, c'est quand même le plus, ouais, c'est le plus important.
C'est le plus important parce qu'on a une peau à pH 5 et à chaque fois qu'on met un produit dessus qui change le pH, la peau va finir par récupérer son pH, mais ça va lui prendre plusieurs heures à pouvoir reconstituer cette barrière de protection. Donc c'est pour ça que bah, typiquement les savons de Marseille, c'est quelque chose qui est très naturel. Par contre, c'est à pH 9 ou 10 et ça, ouais, décape, ça décape tout. Hein. Ce qui est dommage, on peut rehydrater derrière, mais l'idée de Galinée, c'est plutôt de ne pas toucher ce qui est déjà là. Et d'essayer d'être le plus naturel possible dans l'interaction avec la peau, en fait. Donc oui, le pH, c'est vraiment mon petit cheval de bataille.
Là, dans Galinée, il y a combien de produits
Alors, on a maintenant 8 produits. On est une toute petite marque, en fait. Ouais. On a été vraiment créé avec l'argent de mes amis et de ma famille au début.
C'est vrai, ouais, vraiment pas de levée de fonds,
au début, ça a été une de mes meilleures copines, mon coloc et un pote de mon père. Qui m'ont dit ouais on croit dans ton projet et tout, on investit. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un labo et un fabricant qui, je suis arrivée avec mon petit PowerPoint en leur disant je vais faire des produits qui développent les bactéries, et ils m'ont dit ok d'accord, on y croit et on te soutient. Donc ça s'est monté comme ça.
D'accord.
Et petit à petit, bah c'est vrai qu'on a eu donc j'ai lancé avec 5 produits, on a mis tout notre argent dans la première production, et après on a 6 palettes qui arrivent à l'entrepôt et maintenant faut les vendre.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, ça s'est bien passé, et oui, depuis janvier, on a eu la chance d'avoir Unilever Venture au capital, en actionnaire minoritaire.
D'accord.
C'est les gens qui ont investi dans Rennes, par exemple.
Okay. Oui, tout à fait.
Et du coup, c'est vrai que avec un peu plus de budget, je me suis permis de sortir plus de produits. Hein.
Voilà.
Donc là, sur les derniers 12 mois, on a sorti un sérum jeunesse, qui est le truc le plus concentré en bactéries que vous ne trouverez jamais. Un savon sans savon, en fait, un pain lavant pour les peaux atopiques, qui a eu vachement de succès. Et on a un brevet dessus parce que c'était un cauchemar à fabriquer. Un savon à pH 5, c'est vraiment pas facile.
Ah,
j'ai appris ça sur le tas. Ça colle au moule.
Ah oui.
Non, mais alors du coup, je suis incollable sur la fabrication de savon maintenant, mais en fabrication de savon comme ça, non naturel, en fait, à base de syndette, il faut refroidir les moules à moins 30 degrés pour que ça colle pas.
D'accord.
Et le mot qui collait quand même. Ah, donc ouais. Du coup, on a un brevet sur la fabrication même du savon et j'en suis tellement fière parce
ouais,
que
mal.
C'était tellement dur. Et là, on vient de lancer le vinaigre où on a deux brevets sur le vinaigre qui est un tonique. Mais qui va purifier les peaux un peu grasses et qui va apaiser les peaux sensibles. On a des prébiotiques qui sont spécifiquement contre les rougeurs dans le produit. C'est un super produit. Et nous, on est basés en Angleterre et un vinaigre pour le visage, ça amuse les Anglais.
Oui, ça doit beaucoup les
amuser.
Parce
que d'habitude, voilà, ce qu'ils mettent, le vinaigre, la seule utilisation qu'ils ont, c'est de le mettre sur les frites.
C'est ça.
Et ça les perturbe beaucoup qu'on puisse le mettre sur la figure. Mais du coup, non, c'est marrant, ça marche bien.
Ça marche bien là-bas aussi ?
Oui, oui, non, ouais. Ça marche super bien, ouais.
Et
donc ça fait 8 produits en
ça
tout.
Ça fait 8 produits.
J'ai ouais. l'idée pour 40 produits, mais le, pas c'est encore vrai. Le budget pour.
Donc, ouais, voilà, c'est ça.
Moi, chaque chose doucement.
Au ouais. fur et à mesure. Et en te voyant et en voyant d'autres personnes qui sont aussi pharmaciens, comme toi, je pense notamment à Lucille Bataille de La Beauté.
La Beauté, ouais.
J'ai l'impression que les pharmaciens, en particulier les pharmaciennes, reviennent un peu dans le jeu cosmétique, un peu comme au début du XXe siècle, où il y avait finalement beaucoup de pharmaciens qui faisaient des cosmétiques.
Hein oui, et c'est vrai. Alors c'est moi, j'ai tendance, grandi là. En regardant Mathilde Thomas quand même de Caudalie, en me disant toujours un jour peut-être je serai comme elle. Hein. Et c'est vrai que aujourd'hui il y a Lucille de La Beauté, il y a les deux pharmaciennes de La Rosée,
ouais.
Il y a Cosmétique 27 aussi qui est créée par une pharmacienne. Donc c'est intéressant de voir ouais toutes ces entrepreneuses pharmaciennes. Je pense que c'est dû au fait que les pharmaciens on a la chance d'avoir une formation très large, en fait.
C'est ça.
On n'est pas vraiment spécialiste en quoi que ce soit, mais on peut faire un peu de formulation, on peut faire de la microbiologie, on comprend bien la peau et l'organisme humain. Et du coup, ça donne des choses où on peut créer une marque qui prenne un peu tout en compte, en fait. Et oui, en fait, quand on y pense, les pharmaciens, depuis le début, ça a toujours été des entrepreneurs. On a toujours géré notre propre pharmacie. Hein.
Ouais, bien sûr.
Mais oui, non, c'est marrant. Mon arrière-grand-père était pharmacien. Il avait créé sa marque de pharmacien à Miec de Nontron, en Dordogne. Donc vraiment, ça n'a jamais vraiment dépassé Miec de Nontron. Mais
oui, mais
c'était le baume Draga. Guérit souvent, soulage toujours.
Le super slogan, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc de toute façon, il y a toujours une tradition
de pharmaciens qui ont toujours fait leur propre, les préparations pharmaceutiques.
Oui,
c'est ce que Lucille fait dans La Beauté, en fait.
Hein.
Elle remet au jour les préparations pharmaceutiques qui étaient faites en arrière-boutique.
Tout à fait.
Et ce qui était ma partie préférée quand je travaillais en officine claire.
C'est vrai, ouais.
Moi, je voulais être sorcière quand j'étais petite.
Ah.
Et
c'est très à la mode en ce moment. Hein.
Ouais, mais quand j'ai appris qu'il n'y avait pas d'études de sorcière, j'étais vraiment déçue, en fait. Et oui, donc du coup, pharmacien, ça a été ce qui se faisait de plus proche, disons.
Et justement, bah oui, tu vis en Angleterre. Est-ce que ça influence ta conception des produits ?
Alors, ça fait 10 ans que j'habite en Angleterre et ça influence la façon dont j'ai créé la société, je pense. C'est très, très facile de créer sa société en Angleterre. Je l'ai fait en 15 minutes et ça m'a coûté 15 pounds. J'étais en soirée avec une copine qui, elle, venait de déposer les statuts de sa boîte. Elle faisait des petites maisons de poupées pour les téléphones, pour que les téléphones dorment en même temps que son propriétaire. Je trouvais ça trop cool.
Elle est anglaise.
Hein. Non, elle est française.
Elle est française.
Hein. Et je trouvais l'idée super cool. Mais j'étais un peu jalouse hein, parce qu'elle me dit ouais, non, j'ai déposé ma boîte, t'as pas encore ta boîte. Et donc je suis rentrée chez moi et j'étais un peu pompette et j'ai déposé les statuts de ma boîte pompette.
Ah oui.
Donc c'est vraiment facile en fait.
Et ça va, ça tient la route.
Ça a très bien tenu la route. J'ai reçu la lettre de la reine disant qu'elle était très fière qu'on a créé une entreprise dans son pays, tout ça.
Ah, d'accord.
Et ça s'est fait comme ça. Donc, créer vraiment le côté entrepreneurial à Londres, c'est vraiment facile. Il y a un écosystème de start-up qui est formidable. Moi, j'ai appris la compta parce que j'y connaissais rien, à la Google Academy, des choses comme ça. Mais ensuite, c'est vrai que tous les produits ont toujours été conçus et fabriqués en France parce que je suis vraiment, vraiment fière du savoir-faire français dans tout ce qui concerne la cosmétique. Je travaille avec des gens formidables, des labos de fous, des gens qui développent des ingrédients ultra innovants et ils sont tellement fiers du beau travail qu'ils puissent faire. Et ouais, quand je visite notre usine, on est à Landerneau en Bretagne et c'est
d'accord,
magnifique.
Ouais.
Enfin, j'adore les niveaux les standards de la cosmétique française sont inégalables.
Ouais. Ouais, vraiment.
Ah ouais, non, c'est 100%.
Et comment tu vois évoluer Galinée ? Est-ce qu'il y aura d'autres soins ? Est-ce qu'il, je sais pas.
Alors, je pense que Galinée, il y a beaucoup de place. On est la marque de beauté pour le microbiome, donc je pense que on va sans doute se lancer dans des nouvelles catégories assez vite parce que le microbiome, il est partout, dans les cheveux, dans la sphère vaginale qui m'intéresse énormément. Donc il y a beaucoup de choses à faire partout. Et après, je voudrais en soins garder une gamme courte parce que comme on voit les problèmes de peau un peu différemment et qu'on ne segmente pas forcément en peau sensible, peau fragile, peau grasse et tout, je pense qu'on va garder une gamme courte parce qu'on a des produits qui sont pour les peaux sensibles et pour les peaux grasses et c'est le même produit mais avec des effets différents. Donc c'est vrai que là pour l'instant je suis très intéressée à regarder tout ce qui se passe au niveau capillaire et soins du cuir chevelu surtout.
Mais complètement.
Mais oui, comme je te disais, j'ai des idées pour 40 produits, c'est pas un problème, que c'est juste dans quel ordre on les lance et avec quel budget.
C'est ça. Et alors pourquoi ça s'appelle Galinée ?
Alors, ça s'appelle Galinée parce que j'ai eu l'idée de la boîte en regardant les poules de ma voisine dans le Périgord. Galine, c'est la poule en patois.
Ouais.
Donc j'aimais bien le nom. Et en plus, il y a le petit truc où j'habite l'étranger depuis 15 ans et on parle toujours du coq français à l'étranger. Et pour une fois, je voulais que ça soit la poule, que ça soit un peu féministe. Et ça m'arrangeait aussi parce que j'ai travaillé pour La Roche-Posay quand j'étais en Irlande. Et les Anglais et les Irlandais étaient incapables de prononcer le nom. Et comme à l'origine, j'ai quand même créé la gamme pour le marché anglais, je voulais que ça soit quelque chose qui puisse prononcer et que je ne vive pas à vie avec des Anglais qui massacraient le nom de la société.
Ouais, ouais.
Donc voilà, ça s'appelle Galinée, j'aime bien le terme. Et c'est pour ça qu'il y a un petit œuf dans le logo, en fait,
oui,
à cause de la poule.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Qui de l'œuf ou de la poule.
Exactement.
Bien, merci Marie.
Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Plaisir partagé, merci.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur iTunes et SoundCloud et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. Et sachez que maintenant, Beauty Toaster, le podcast, est aussi diffusé sur Deezer. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile. Ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à midi.